Mesdames, Messieurs, chers collègues, d'abord je voudrais remercier le Centre Alain Savary de m'avoir invité à prendre la parole devant vous et à ouvrir en quelque sorte cette session de travail sur le thème des parents acteurs de leur scolarité. Ce que je vais faire, c'est tout au plus une sorte de mise en bouche ou ce qu'on appellerait dans les courses automobiles un tour de chauffe, pas davantage. C'est-à-dire que je vais aborder un certain nombre de questions, mais je ne les traiterai évidemment pas jusqu'au bout, puisque vous avez plusieurs jours pour le faire. Je vais simplement essayer de soulever un certain nombre de questions, ici ou là, de faire le point sur tel ou tel aspect des relations entre parents et école, et puis de vous laisser finalement avec des questions que nous aurons l'occasion de discuter, à la fin de la matinée, et puis que vous aurez l'occasion, bien entendu, d'approfondir au cours de cette semaine. Je voudrais vous proposer une réflexion en trois temps. D'abord, essayer de déchiffrer l'injonction institutionnelle à être des parents acteurs. Pour ensuite poser un certain nombre de questions concernant les parents de milieux populaires face à la scolarité et face à l'école. Ce qui m'amènera, dans un troisième temps, à réfléchir sur qu'est-ce qu'agir pour aider les parents à être acteurs. Donc, premier temps de cette mise en bouche, déchiffrer une injonction institutionnelle parents acteurs de la scolarité de leurs enfants. Première question, qui vise-t-on ? Qui est visé dans cette appellation ? On sait très bien que, et vous êtes bien placé pour le savoir, par votre existence personnelle, professionnelle, par les contacts que vous avez, on sait très bien qu'il existe des parents qui sont extrêmement acteurs, il n'y avait pas besoin de leur demander de l'aide pour qu'ils le soient et qu'ils soient très acteurs, voire suracteurs. Ils sont très au fait des enjeux de l'école, ils disposent de toutes les ressources pour mettre en œuvre des stratégies. Inutile de les rappeler ici, que ce soit une stratégie de choix de l'établissement, de recours à divers dispositifs d'aide, que ce soit des cours particuliers, du coaching scolaire, des stages linguistiques, etc. Vous connaissez tout ça par cœur, donc je n'y insiste pas. Il y a aussi des parents qui sont peu armés, qui ne disposent pas des ressources qu'on suppose chez les parents dont je viens de parler, et qui pourtant se sentent très proches de l'école, c'est-à-dire ils essayent d'être, j'allais dire, dans les mêmes pas, voire de marcher la main dans la main avec les enseignants, même s'ils ne savent pas trop qu'est-ce qu'il leur revient de faire. Et puis il y a aussi des parents qui sont acteurs, mais pas de manière efficace, pas de manière pertinente, voire pas de manière acceptable. Les parents qui se rendent à l'école pour aller passer un savon à l'enseignant, voire se rendent coupables de voies de fait. Ils font des choses qui ne sont pas acceptables et qui pourtant, de leur point de vue, est une façon d'agir pour la scolarité de leurs enfants. Qu'ils soient dans le vrai, qu'ils soient dans le faux, est une toute autre question. Et puis, il y a des gens qui suivent de très près, autant que leurs moyens le leur permettent, le travail scolaire, qui suivent aussi ce qui se fait en classe, ce qui se fait à l'école. Bref, qui vise-t-on ? Eh bien, ce sont plutôt des gens de milieu populaire. D'ailleurs, ça a été évoqué par Patrick Picard il y a un instant. Ce ne sont pas tous les parents, puisque on considère à l'observation que finalement toute une partie des parents, les parents des classes moyennes de façon générale, sont déjà amplement acteurs de la scolarité, même si la place qui leur est octroyée, réservée par l'institution, n'est pas toujours, aux yeux des organisations de parents d'élèves, la place qu'ils souhaiteraient occuper. On sait que les associations de parents d'élèves, alors même que, de fait, elles représentent, si on regarde la sociologie de leurs adhérents, plutôt les classes moyennes, sont des associations qui, alors même que ces classes moyennes sont déjà très actives dans l'école, que les parents sont très acteurs, ben ces associations de parents d'élèves réclament que les parents puissent être davantage acteurs, co-constructeurs d'une éducation, qui soit dans la coéducation, et pour cela demandent que l'institution scolaire fasse davantage de place et reconnaisse davantage la place des parents. Ceci dit, dans l'injonction institutionnelle parents acteurs de la scolarité de leurs enfants, c'est bien les milieux populaires qui sont visés. Et d'ailleurs, quand on voit le programme de la semaine qui vous est proposé, il ne semble pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Deuxième temps, dans la tentative de déchiffrage de cette injonction institutionnelle, qu'est-ce que c'est qu'être acteur de la scolarité de ses enfants ? Il y a le patent et il y a le cachet. Le patent, eh bien, c'est ce que font les parents qui viennent à l'école, qui rencontrent les maîtres, qui posent des questions, qui demandent des conseils, mais qui par ailleurs font parfois le choix de l'école, explicitent le choix de l'école, ont recours à tel ou tel dispositif et sont très au fait de ce qui s'est fait en classe, voire, comme ça a été évoqué par certains chercheurs, sont des parents d'élèves professionnels. Qui lisent la lettre de l'éducation, qui lisent des tas de choses. À l'évidence, ce sont des parents acteurs, c'est pas tant. Et puis, il y a probablement des acteurs, des parents qui sont acteurs, mais de façon cachée. On ne le sait pas, on ne le voit pas, ils ne le disent pas, ils ne font pas de bruit, ils ne se font pas remarquer, ils n'osent pas venir trop à l'école. Et ça peut faire penser que ces parents ne sont pas acteurs du tout parce que, justement, ça ne se voit pas ou parce que ce n'est pas identifié comme être acteur. Et parfois, c'est chargé de sens négatif. Ils critiquent. Il me semble que il y a une évolution, cependant, dans l'institution scolaire où on peut faire l'hypothèse d'une évolution quant à la façon de regarder les parents acteurs. Les parents populaires sont-ils ou non acteurs ? Si on entend par acteur deux significations possibles, être concerné par l'école et agir au jour le jour, sur la scolarité. Être concerné, agir. Je crois que les parents populaires se sentent concernés, mais ils sont souvent dépourvus des moyens d'agir. Et il me semble, pendant longtemps, l'école, l'institution, à travers éventuellement ses responsables, et puis ses professionnels, confrontés à la difficulté quotidienne, observant un certain nombre de choses dans les classes, dans la façon dont les enfants arrivent à l'école, leur vêture, le contenu de leur cartable, le fait qu'ils ont fait ou non leurs devoirs, etc. Donc, pendant longtemps, l'école a pu considérer que, comme les parents n'avaient pas les moyens d'agir au quotidien, n'avaient pas les moyens d'agir de façon pertinente, alors c'est qu'ils ne se sentaient pas concernés. Et on a eu, donc pendant des années et des années, ce fameux discours sur la nécessaire implication des parents dans l'école, dans la scolarité, etc. Comme si, au fond, l'absence de moyens d'agir ou l'absence des moyens pertinents pour agir dénotait, était la preuve d'une absence d'intérêt et d'une absence de volonté d'être acteur. Et donc on a eu ce discours extrêmement présent sur l'implication des familles, et on n'avait pas un programme de zone d'éducation prioritaire qui faisait l'économie de cet aspect des choses. Impliquer les parents dans l'école, ou impliquer les parents dans la scolarité. Je fais l'hypothèse que les choses sont en train de bouger. On aurait envie de dire, si on avait envie de se positionner en termes normatifs, en train de bouger dans le bon sens. Pourquoi ? Eh bien parce que, il me semble que, de plus en plus, est acceptée l'idée par l'école, par les différents professionnels, autant d'ailleurs que par les associations qui accompagnent l'école ou qui accompagnent les élèves ou les parents, et de plus en plus accepter l'idée que, au fond, ces parents se sentent terriblement concernés par l'école, que vraiment, c'est leur problème, mais ils ne savent pas comment en faire leur affaire. Donc on accepte effectivement l'idée qu'ils sont, concernés, d'une certaine manière, ils sont impliqués, même s'ils sont dépourvus des ressources, des moyens pour mettre en œuvre une action. Et donc, je trouve que cette expression « parents acteurs de leur scolarité » peut être entendue d'une manière favorable quant à ce qu'elle signe, qu'elle signifie comme évolution de l'institution et de la réflexion collective là-dessus. Alors, bien entendu, je fais aussi la part de l'effet de mode de ce terme-là. Vous savez que dans la vie sociale ou dans la vie politique ou dans la vie scolaire, il y a des termes qui sont... qui montent comme ça à des périodes. Alors on a eu le terme partenariat. Alors à une époque, il y avait du partenariat vraiment à tous les étages et toutes les trois lignes quand on faisait un projet de ZEP ou un projet pour avoir des financements de telle ou telle institution. Et puis il y a eu la médiation. Alors pendant quelques années, la médiation était vraiment au hit parade. Et puis comme ça, les mots bougent. Ça veut dire aussi quelque chose sur l'évolution de la pensée collective. Et depuis quelques années, on est acteur. Et puis on est aussi co-constructeur. Alors on co-construit les politiques publiques, on co-construit la scolarité, on co-construit tout. Dans 5 ans, il y aura un autre terme. Ça n'a aucune importance. Je dis simplement cela pour souligner que le terme, l'introduction de parents acteurs, peut relever effectivement d'un effet de mode dans les politiques publiques, mais en même temps, et j'ai commencé par là, je ne crois pas que ça se limite à un effet de mode. Il est possible qu'on ait une sorte de renversement et que on accepte beaucoup plus de considérer que les gens sont intéressés, mais qui n'ont pas les moyens de le faire. Alors quel est le sens? Pour terminer ce point de déchiffrage, quel est le sens de l'injonction institutionnelle ? Eh bien, c'est une injonction qui se base sur le fait qu'on est convaincu. On, c'est-à-dire les acteurs de l'institution, à quelque niveau qu'ils se situent, que permettre aux parents d'avoir un rôle actif, ça va être utile pour leurs enfants, pour la réussite scolaire de leurs enfants. Et effectivement, un certain nombre de travaux ont montré qu'il y avait une corrélation forte entre la réussite scolaire des enfants et le fait que les parents alors s'impliquent directement, jouent de leurs ressources, usent de leurs moyens pour le plus possible accompagner leurs enfants dans leur scolarité. Quelquefois en oubliant un tout petit peu que une corrélation n'est pas une cause. Que les choses vont ensemble, mais que ce n'est pas forcément parce que les parents font des tas de choses que les enfants réussissent. Il se trouve que les parents ont les moyens de faire des tas de choses parce qu'ils vivent dans des conditions sociales qui le permettent. Et il se trouve que ces enfants bénéficient d'un bain culturel, d'un certain soutien quotidien, mais pas seulement de la part de leurs parents, de la part de tout leur milieu, qui fait que finalement l'école leur est un lieu familier. L'école est un lieu dans lequel ils se repèrent aisément et finalement dans lequel ils obtiennent une certaine réussite. Est-ce que c'est l'implication de leurs parents qui a fait quelque chose ? Pas forcément, même si cette implication ne leur a sûrement pas été défavorable. Bien que il arrive des cas où une implication trop forte des parents puisse être défavorable parce qu'elle aboutit à mettre une pression, voire un stress, une exigence sur les enfants que, au moins momentanément, parce qu'ils sont à une phase de leur enfance ou de leur adolescence, au moins momentanément, ils ne sont pas prêts à soutenir ou à, face à quoi ils ne sont pas prêts à agir dans le sens que souhaiteraient les parents ou que souhaiterait l'école. Donc, pourquoi, quel est le sens de cette injonction ? Parce qu'on a l'idée quand même que ça va aider les enfants. Et effectivement, quand les parents, et ça, tous les travaux de recherche le montrent, quand les parents se sentent intéressés, quitte à être démunis, se sentent intéressés et pour cela soutiennent leurs enfants, les encouragent, leur posent des questions, même s'ils ne disposent d'aucun des repères scolaires nécessaires, quand ils encouragent leurs enfants à être différents d'eux, alors ils peuvent les aider. Et je pense à cette personne d'un milieu populaire qui disait, dans une enquête il y a déjà un certain temps, mais je trouve que c'est tellement parlant que je ne résiste pas à l'envie de vous l'évoquer. C'était une mère de milieu populaire, issue de l'immigration d'un pays du Maghreb, et qui disait « Ma fille est en CP et je la prends sur mes genoux pour la faire lire. Moi, je ne sais pas lire, mais je la prends sur mes genoux pour la faire lire. » Et ce geste qui paraît d'une terrible malignité et en même temps d'une signification très profonde. Parce que, en prenant sa fille sur les genoux pour la faire lire, alors qu'elle ne sait pas lire, elle exprime à sa fille, « Ma fille, tu peux apprendre à lire. Je t'autorise à apprendre à lire. » Ce qui permet à la petite fille de s'autoriser elle-même à apprendre à lire, et en même temps que, puisque ça ne fait pas de conflit avec sa mère, d'autoriser sa mère à ne pas savoir lire. C'est ce que Jean-Yves Rochette, de l'Université de Paris 8, appelle très joliment la triple autorisation. Eh bien, ça, c'est rien du tout. Et puis, ça ne se voit pas depuis l'école. Ça ne se voit pas depuis les bureaux de l'administration nationale, mais de l'éducation nationale. Mais c'est terriblement porteur de sens, porteur de soutien pour un enfant. Et donc, s'il y a cette injonction institutionnelle, c'est parce qu'il y a la conviction que ça peut aider les enfants, mais bien sûr, pas à n'importe quelle condition. Le sens de cette injonction, c'est aussi que certains ont de la peine à jouer ce rôle, à jouer ce rôle d'acteur, à jouer ce rôle d'accompagnateur de leurs enfants, d'appui à leur scolarité. Et l'idée, c'est, comme disent les anglo-saxons, d'aller vers un empowerment, donner du pouvoir, donner de la capacité aux parents. Et ça peut être tout à fait utile pour aider les enfants. Alors ce sens d'une injonction institutionnelle pourrait nous conduire à dire, finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière cette injonction l'idée ou l'espoir ou le rêve que les parents de milieux populaires de plus en plus se comportent vis-à-vis de l'école comme les parents des classes moyennes. Mais sans forcément se demander ce que ça suppose de connaissance du système, de rapport à l'école, de rapport au savoir, et vous avez travaillé sur cette question du rapport au savoir des milieux populaires, sans se demander non plus ce que ça suppose de rapport aux institutions en général, de manière de situer dans le monde social. Peut-être qu'il peut y avoir cette idée, voire ce fantasme, que les parents de milieux populaires adoptent finalement peu ou prou les façons de faire des classes moyennes. J'en suis pas complètement sûr. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit ça qui est recherché. Ne serait-ce que parce que les parents des classes moyennes sont certainement des acteurs, souvent des acteurs pertinents, mais ce sont aussi des acteurs exigeants, voire, passez-moi le mot, des emmerdeurs. Ce n'est pas les parents les plus faciles pour les enseignants. Ce ne sont pas les parents les plus faciles parce que, finalement, ils disposent d'une certaine indépendance par rapport aux enseignants. Ils ne sont pas impressionnés par leur savoir. Ils en ont au moins autant, même si c'est un savoir différent. Ils ne vont pas hésiter, en cas de besoin, à demander un changement de classe ou à pratiquer un changement d'école. Et certains ne vont même pas hésiter à demander à un enseignant pourquoi il n'utilise pas telle méthode, pourquoi il ne fait pas comme si, ou pourquoi il n'emmènerait pas les enfants visiter telle exposition. Autrement dit, les parents des classes moyennes, certainement, sont très actifs, peuvent être plein de stimulation, plein de bonnes suggestions, mais en même temps, on peut avoir le sentiment qu'ils empiètent peu ou prou sur le territoire professionnel des enseignants. Et c'est d'ailleurs pas si facile que ça pour les parents des classes moyennes, y compris pour les délégués de parents, de savoir jusqu'où ils peuvent aller trop loin dans la coopération avec l'école, dans la coopération avec les enseignants. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas certain que quand on cherche à faire des parents acteurs, des parents de milieu populaire, on vise vraiment complètement le milieu des classes moyennes. Si les parents de milieu populaire se mettaient à être aussi exigeants que les parents des classes moyennes, la vie scolaire deviendrait largement invivable. Donc, ce n'est pas exactement ce qu'on cherche. On va chercher à, disons, les doter d'un certain nombre d'outils, ou plutôt je reviendrai sur cette expression tout à l'heure. Voilà pour un premier balayage, premier déchiffrage de l'injonction institutionnelle. Qui vise-t-on ? Qu'est-ce qu'être acteur ? Et le sens d'une injonction. Ça m'amène maintenant, puisqu'il est bien clair que l'éventail, finalement, la cible s'est bien resserrée sur les parents populaires, je voudrais consacrer maintenant un deuxième temps de réflexion aux parents populaires face à la scolarité et face à l'école. Les parents de milieu populaire sont très majoritairement très concernés par ce qui se passe à l'école. On accepte là maintenant de le penser, de le considérer et de se placer dans ce cas de figure, alors que, je le disais tout à l'heure, il y a vingtaine ou trentaine d'années, il s'agissait de dire qu'il faut les impliquer parce qu'ils ne se sentent pas concernés. Ils se sentent en fait très concernés. Non seulement ce sont les travaux de recherche qui l'ont mis en évidence, mais plus encore, c'est l'expérience quotidienne qui conduit finalement et les professionnels et les associations, éventuellement les uns avec les autres et les autres avec les uns, à ce constat qu'au bout du compte, il faut bien faire, les parents de milieu populaire, l'école, c'est leur problème. Alors, entre parenthèses, j'ai dit très majoritairement, il existe effectivement une toute petite minorité de parents pour lesquels l'école ne semble pas les concerner, probablement parce qu'ils sont tellement envahis par les problèmes de la survie quotidienne que l'école n'a pas de place. C'est d'ailleurs une autre façon de réagir que celle d'autres parents qui vivent dans des conditions à peu près aussi difficiles, mais qui sont très concernés par l'école, mais comme ils n'ont pas les moyens d'agir, ils font une confiance terrible à l'école en se disant que, au moins, pour ce qui concerne l'école, pour ce qui concerne la scolarité, pour ce qui concerne leurs enfants, il y a une institution, il y a des professionnels, des gens compétents qui s'en occupent. Et ça, ça peut les décharger, pas au sens où on s'en débarrasse, mais ça peut contribuer à alléger le fardeau de leur vie quotidienne. Il y en a effectivement une petite minorité pour lesquelles la scolarité, ça ne trouve pas de place dans leur existence quotidienne, mais c'est vraiment une toute petite minorité. Très majoritairement, les parents de milieux populaires sont très concernés par ce qui se passe à l'école. Alors, ce qui se passe à l'école, c'est-à-dire ce qui se passe dans la classe, bien sûr. Les apprentissages. Est-ce que mon enfant, il peut apprendre à l'école ? Est-ce que mon enfant est soutenu ? Est-ce qu'on l'aide à l'école ? Est-ce qu'on l'aide dans la classe ? Le nombre de fois où dans les enquêtes, on entend des parents de milieux populaires dire « Oh, j'ai l'impression que l'enseignant, il s'intéresse qu'aux élèves qui réussissent, il ne s'intéresse pas aux élèves qui ont des difficultés. » C'est vrai ou c'est pas vrai ? La perception que les gens en ont ne correspond pas forcément à une réalité. Ça peut correspondre à une réalité, et ça n'est pas nécessairement le cas. Donc, ce qui se passe dans la classe, ça les concerne, même s'ils ne savent pas forcément le lire. Le soutien qu'on apporte à leurs enfants, ça les concerne. Même s'ils traduisent l'école, même s'ils traduisent les exigences de l'école, les devoirs de façon générale, et pas simplement les devoirs à faire, les devoirs auxquels sont soumis leurs enfants, même si ces parents peuvent avoir tendance à soumettre cela à une lecture très bureaucratique, c'est-à-dire que l'école, c'est une administration. Et si on fait ce que demande une administration, on est en règle avec cette administration. Donc, aller à l'école, c'est aller à l'école à l'heure, c'est aller tous les jours à l'école parce que l'école est obligatoire, c'est être poli avec les enseignants, c'est dire bonjour à la maîtresse, c'est ne pas faire du désordre en classe, c'est-à-dire, au fond, respecter les règles de l'école. Et l'école est perçue comme une administration avec ses règles bureaucratiques. Et pour un certain nombre de parents, à partir du moment où on respecte ces règles, eh bien, ça doit marcher. Sans que toujours ils perçoivent que ces règles, être à l'heure, venir tous les jours, j'ai oublié, venir propre, bien préparé, c'est-à-dire les parents ont fait ce qu'il faut, en oubliant que ces règles, finalement, ne sont en fait qu'une condition de l'entrée dans les apprentissages scolaires, et ça n'est pas l'alpha et l'oméga de l'école. Alors si je le dis, c'est que on a pu entendre dans les enquêtes, mais certainement des professionnels l'ont vu aussi, des parents protester parce que à la fin de l'année, leur fille, qui pourtant n'a pas manqué un jour d'école alors même qu'elle avait 38 de fièvre, elle est allée à l'école. Les parents ont insisté pour que l'enfant aille à l'école, alors même qu'elle a été elle est tous les jours à l'heure, alors même qu'elle est d'une attitude exemplaire. Et d'ailleurs, les maîtres et les maîtresses le disent. Qu'est-ce qu'elle est sympathique, votre fille ? Qu'est-ce qu'elle est gentille ? Qu'est-ce qu'elle est polie ? Alors même qu'elle a toujours fait ses devoirs, voilà qu'à la fin de l'année, elle redouble. Dans une perspective où l'école est une bureaucratie, c'est incompréhensible. Or, pour un certain nombre de parents qui n'ont pas les moyens de déchiffrer l'école, c'est bien cet aspect administratif de l'école qui pèse. Mais les parents sont très concernés, même s'ils n'ont pas les moyens de la lire. Ils sont aussi très concernés par ce qui se passe à l'école. à l'école, pas que dans la classe, mais aussi dans la cour de récréation. Ou dans la classe, mais pas dans le rapport entre maître et élève, mais entre élèves. Ils se sentent concernés par les influences subies par leurs enfants. Ils se sentent concernés par les questions de sécurité. Ils se sentent concernés par le langage ou le vocabulaire que leurs enfants entendent dans l'école. Éventuellement par des pratiques de raquettes ou la constitution de clans ou ce qu'on pourrait appeler de façon plus générale l'esprit qui règne dans l'école ou dans le collège. Ça les concerne. Et une enquête récente sur les internats d'excellence nous a montré, je dirais une fois de plus, s'il en était nécessaire, que les parents de milieux populaires, qui sont majoritaires parmi les parents des internes d'excellence, ont le souci, quand ils mettent leurs enfants dans un internat d'excellence, de les faire échapper à de mauvaises conditions de scolarisation dans leur zone de résidence. Combien de parents nous disent « Je suis content que mon enfant soit là, parce que dans le collège où il était, il ne pouvait pas travailler, les heures de cours duraient en fait 20 minutes, tout le reste c'était du temps où l'enseignant essayait de faire la police, etc. Ou alors on n'était pas en sécurité, ou alors ceux qui voulaient travailler, les autres se moquaient d'eux, ou les empêchaient, les traitaient de bouffons. Bref, ce qui se passe dans l'école, ce qui se passe dans la sociabilité enfantine ou adolescente, concerne considérablement les parents. Ces parents de milieu populaire, et ce sera un deuxième point, sont dans une grande diversité. Diversité, d'abord, de conditions sociales. Le terme populaire est très pratique pour essayer de dessiner vaguement un cadastre du monde social. En même temps qu'il est très pratique, il est très trompeur, parce que on sait bien que les milieux populaires n'ont rien d'un groupe indifférencié entre des ouvriers qualifiés ayant un contrat à temps plein, ayant une stabilité relativement forte dans l'emploi, des structures de défense, un certain nombre d'étayages par les systèmes de protection sociale, etc. Et entre, finalement, une famille ouvrière de ce type-là, qui du reste, dans les enquêtes, ne se perçoit plus tellement comme faisant pas partie des milieux populaires, mais plutôt des classes moyennes. Donc entre cela et à l'autre bout, pourrait-on dire, du spectre, des parents récemment arrivés en France, avec papier ou sans papier, vivant dans des situations familiales, alors parfois un couple, mais parfois des situations beaucoup plus bousculées, ne maîtrisant pas la langue, ayant une incertitude totale du travail, survivant avec des minima sociaux, bref. On a un éventail considérable et donc une diversité des parents populaires. Alors si je le dis, c'est que la question de permettre à ses parents d'être acteurs ne va pas se poser de la même façon dans un cas et dans l'autre. Et les parents auxquels, par exemple, s'adresse l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme à travers les actions éducatives familiales dont il vous sera parlé par Éric Nedelec, sont des parents qui ne sont pas le modèle des parents de milieu populaire. C'est une certaine catégorie de parents de milieu populaire qui sont des parents qui sont dans des situations problématiques face à l'écrit, soit des gens qui sont dits illettrés, donc qui ont su et qui ne savent plus se débrouiller avec l'écrit, soit pour beaucoup parce que l'agence a élargi finalement le spectre de son action, soit des parents carrément analphabètes. Bon. Diversité des parents populaires en ce qui concerne leur rôle, leurs conditions sociales, diversité aussi en ce qui concerne leur rôle d'acteur. Je ne vais pas le développer, je l'ai évoqué un tout petit peu tout à l'heure. Certains parents ne font rien parce qu'ils se sentent complètement démunis, même